BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, le gouvernement n'a plus d'argent pour distribuer des aides inutiles avec de l'argent qu'il n'a pas. Bon, vous avez compris, on est fauché, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va commenter les événements qui ont marqué encore cette semaine de trêve. Après les semaines de guerre, c'est les semaines de trêve, c'est quand même mieux. Sur l'économie, la finance, les marchés et votre argent. Donc encore une émission spéciale trêve en Iran. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être prévision. Bah oui, tout le monde revoit ses prévisions à la baisse, à la hausse. Enfin, on n'y comprend plus rien. Justement, on va demander à nos invités de nous expliquer. La question macro, le FMI nous a fait un peu peur cette semaine avec la dette mondiale. Faut-il avoir peur de la dette? Le chiffre de la semaine, c'est le cours du pétrole. 90 dollars vendredi en milieu de journée et puis des bonnes nouvelles a priori et l'Agence internationale de l'énergie qui dit que le problème c'est pas qu'on n'a pas assez de pétrole, c'est qu'il n'y a pas assez de demande. On va en parler en deuxième partie de l'émission. La bourse, quels sont les événements qui ont plus marqué mes invités sur les marchés cette semaine? Quelles perspectives pour la bourse? La question d'argent, quel est le placement de la semaine? On a déjà des réponses très intéressantes qui m'ont été envoyées par mail par des gens très studieux. Le top ou le flop? Le top 3 des gérants pour 2026, les actions à acheter ou vendre. Mais d'abord, avant de vous présenter nos invités, j'ai une super nouvelle à partager avec vous. Ben voilà, we are the champion. Grâce à vous et grâce à nos invités de marque, jeu de mots, nous avons explosé notre record historique d'audience en mars. Donc voilà, je suis très content. J'ai gardé ce côté un peu gamin de la compétition et quand j'ai des bons scores, je suis très content. Donc merci donc à tous. On nous écoute 231 000 téléchargements en podcast. C'est le record historique pour l'émission. Mais vous le savez maintenant, ben pour faire des records et pour avoir une émission exceptionnelle, en fait, le secret... c'est d'avoir des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, de guerre et de trêve. Il défend la France encore et toujours, et ce n'est pas cinq. Pierre Chang, vous êtes responsable des pôles France et Impact à la Financière de l'Échiquier. Je me posais une question. Vous êtes responsable des pôles France et Impact, mais est-ce que vous avez un impact sur la France?
J'essaye, à mon humble niveau. En tout cas, bravo pour les audiences, Marc.
Merci, bah, c'est grâce à vous, grâce à vous tous. Faut-il encore le présenter, un des chouchous de BFM Business? Vous le retrouvez tous les lundis matins avec plaisir, le talentueux Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. C'est plus sympa d'être ici que le lundi matin, franchement. C'est naze le lundi matin.
Tout est génial ici.
Fayot.
Toujours.
Elle nous parlait déjà beaucoup des États-Unis, mais maintenant elle est devenue globale et nous ouvre grand une fenêtre sur le monde. Virginie Robert, merci pour ça. Vous êtes présidente de Constance Associée. Vous n'êtes pas Constance Robert, présidente de Virginie Associée, mais Virginie Robert, présidente de Constance Associée.
Prochain chapitre.
Je dis ça, c'est un petit clin d'œil parce qu'au début, quand on se voyait il y a 15 ans, je vous appelais Constance au lieu de
tout
vous appeler.
C'est une histoire de prénom. Vous avez vu, oui. Constance, Robert, Virginie.
Alors, cette période de trêve, il nous faut un spécialiste de la neutralité géopolitique et économique. On s'est donc tourné vers la Suisse et qui on a trouvé? Un de ses plus brillants représentants, Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée. Vous êtes l'homme de la trêve, vous?
On aime bien la neutralité, mais neutralité, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien.
Ah, oh, c'est subtil, ça. Vous allez nous expliquer ça. Allez, on passe tout de suite, justement, messieurs les économistes, je me tourne vers vous. Bah oui, vous êtes un peu seigneur météo de Carlos. Les économistes, les gouvernements, les grandes institutions comme le FMI, on a l'impression qu'elles planchent tous les jours pour savoir si l'économie va connaître des tempêtes, des nuages, du soleil. L'impact de la guerre en Iran a tout remis à zéro. On annonce une sorte de ciel morose, très morose. Alors Wilfried, expliquez-nous l'envers du décor. C'est-à-dire que vous, quand vous avez ces événements, comme ceux qui viennent de se passer, est-ce que vous faites comme les gens du FMI et autres? Est-ce que vous êtes en train de reprendre vos modèles? Vous allez sur votre ordinateur, vous changez tous les chiffres?
On considère évidemment l'impact, hein, bien sûr. Ce qui est très difficile, c'est d'être déjà au clair sur les tendances préalables au choc. C'est-à-dire que l'économie est choqué par cet événement considérable quand même qui est la guerre en Iran.
Considérable.
Oui, parce qu'en fait, elle...
Déjà, c'est important, le mot, vous choisissez le mot.
Oui, parce qu'en fait, on est vraiment sur une perturbation à la fois des prix et potentiellement de l'offre. Donc c'est ça qui est très important, c'est comment l'économie peut s'ajuster à ce genre d'offre. Mais surtout, comment est-ce que on identifie bien les tendances telles qu'elles étaient avant ? Est-ce qu'elles vont être renforcées ? Est-ce qu'à l'inverse, ce sont des tendances qui vont être complètement renversées par ce choc ? Et le premier élément, c'est on était sur des tendances qui étaient des tendances au ralentissement de l'économie mondiale. Seuls les États-Unis tenaient à peu près leur rang dans le moteur de croissance. Et encore, mais
tiré par l'IA avec la croissance en K.
Exactement, mais néanmoins, on avait ce moteur américain qui certes décélérait mais restait là, mais plus véritablement de relais. Et puis le deuxième élément, et ça je sais que nous ça fait partie des nos points d'accord, mon cher Marc, on était sur une tendance de désinflation. Mmh. On était sur une tendance assez profonde de baisse de la dynamique de prix. Évidemment, on a à la fois la tendance au ralentissement qui est accélérée par ce choc. Très fortement. Et là, on voit une espèce de tétanie quand même dans les enquêtes d'opinion. Alors, ça ne se voit pas encore trop dans les chiffres durs de l'économie, mais dans les enquêtes d'opinion.
Ça ne se voit pas du tout dans les résultats des entreprises. C'est ça qui est incroyable, non ?
Non, parce que dans... En fait, ça dépend des entreprises.
Je vais revenir vers vous.
Ça dépend véritablement des entreprises. Et en revanche, on a des effets extraordinairement complexes. Et là, c'est très important à les calculer finement. Sur la dynamique de prix. Parce qu'effectivement, ça renforce le côté, la pression à la hausse des prix, mais ça ne crée pas pour autant une dynamique inflationniste. Et donc, effectivement, on va être sur un ralentissement de l'économie mondiale, une augmentation des coûts et des frictions généralisées dans l'économie mondiale, mais pas nécessairement de pression
inflationniste. Mais vous, Wilfried Galland, par exemple, vous avez repris tous vos chiffres et vous avez baissé, par exemple, vos prévisions, sur la zone euro, par exemple. Vous avez baissé de combien sur la zone euro de...
La zone euro, moi, je les ai baissées d'à peu près 0,5.
Ah oui, 0,5.
Bah, j'étais un peu en dessous de 1 et je suis maintenant...
Parce que le 0,5. FMI ne nous dit pas ça, hein, en croissance mondiale et autres. Bah, ils nous disent plutôt un impact de 0,2 à 0,4%.
Quand vous regardez par exemple sur la zone euro les prévisions de l'Allemagne, voilà, on peut dire que si on s'en sort à 0,5, on sera pas mal quand même.
D'accord. Patrice, vous avez refait ce boulot aussi, vous, oui. Et vous le faites en permanence, j'imagine, non ?
Alors, on va travailler avec peut-être dans cette crise particulière, ouais. Parce que à chaque fois, c'est toujours un peu la même méthode, mais il faut tenir compte du point dans lequel on part, et puis en fait de la nature de la crise. Et là, on voyait très bien, effectivement, en début de crise, qu'il va y avoir des seuils. Et c'est les seuils de tolérance, en fait. On peut absorber, et l'économie telle qu'elle se terminait en 2025, elle pouvait absorber un certain nombre de chocs relativement modérés. Et puis après, si on passe, et là, on retrouve scénario FMI, BCE, et on va en faire la même chose, effectivement, dans le cadre d'économistes privés, on va travailler avec des seuils de peine. C'est-à-dire, si le pétrole, reste dans une fourchette 100-120 $ sur tout le reste de l'année, combien ça coûte en termes de croissance, etc. D'accord. Si on passe au-delà de cette fourchette de 120 $, 150 $. Et en fait, c'est une démarche qu'on retrouve. BCE et FMI ont travaillé là-dessus.
Donc plusieurs scénarios, et principalement l'élément clé du scénario, pour rebondir un peu sur ce que disait Wilfried aussi, c'est le pétrole, parce que le pétrole pourrait modifier, si la hausse durait, le scénario de hausse des prix temporaire en inflation durable.
Tout à fait. C'est le pétrole, le prix, mais derrière le prix, c'est la durée, effectivement, qui est importante, parce que plus, en fait, les mécanismes de transmission, on peut avoir un choc de prix qui est relativement court et un contre-choc derrière. Mais si on reste longtemps, on a plus de chances d'avoir une transmission prix globaux vers des prix cœur, et c'est là où, effectivement, la mécanique des banques centrales est interpellée.
Mais sauf que j'imagine, comme pour mon pensée Arbevel, les clients de l'Union bancaire privée, quand ils vous voient, ils vous disent, bon, c'est sympa de nous donner 10 scénarios, mais quel est le vôtre ? Alors moi, je vous demande quel est le vôtre.
10, mais de toute façon, effectivement, c'est d'orienter, et même pour les clients comme pour nous, en termes de gestion, c'est d'orienter vers le scénario qui prévoit à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, on se trouve avec une prévision qui est un peu plus pessimiste que celle du FMI. Le FMI, c'est globalement 3,1%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Nous, on travaillera sur quelque chose qui est juste en dessous de 3%, 2,7%, 2,8%. Pourquoi ? Parce que, notamment, effectivement, je rejoins Wilfried là-dessus, la zone euro est certainement impactée. L'Asie, hors dehors de la Chine, et la zone euro sont les plus impactées. Et les plus impactées, ça veut dire ce sont eux qui vont voir le plus de reprise de l'inflation et de perte de croissance. Et l'Allemagne, effectivement, est très exposée. Et après, on va trouver des pays dans l'Asie. On va trouver la Corée, Taïwan, même s'il y a de la techno, et la Malaisie, des pays comme ceci.
On va s'en sortir, nous, Wilfried ?
On va faire ce qu'on sait parfaitement faire dans notre beau continent, dans notre beau pays, c'est-à-dire on va patauger.
Mais nous, par exemple, on va être à 0,5% en France ou non on a, parce qu'on a un acquis de croissance quand même.
Alors, la France fait partie des pays qui sont les moins touchés, d'une certaine manière, parce qu'on est moins ouvert sur le commerce extérieur que l'Allemagne. Mais on va probablement être en dessous de 0,8, 0,7. Hein, donc, on sera un petit peu au-dessus de l'Allemagne, mais pas beaucoup plus.
Pierre, le gouvernement a révisé de 1 à 0,9.
Ouais. France, hein. Pierre, quand je disais, on voit pas dans les résultats des entreprises, vous avez tiqué.
Ouais, parce que en fait, dans ce genre de situation, il y a plusieurs secteurs qui sont concernés en première ligne. C'est bien évidemment la consommation discrétionnaire, et également l'immobilier, la construction neuve, par exemple. Voilà. Donc là, sur la consommation discrétionnaire, on a eu des résultats récemment là qui ont prouvé ça. Hein, donc on a eu LVMH, Hermès moins 10 hein, le jour de la publication, et ils disent que oui, le Moyen-Orient, ça, si je prends le cas d'LVMH, enlève déjà 1% de croissance. Donc pour l'instant, c'est vraiment le conflit est très récent.
C'est ça.
Mais c'est déjà 1%. Donc d'accord. Maintenant, si ça dure, ça peut être 2, 3, 4. Et là, comprends. Ça peut. Donc la consommation discrétionnaire, ils sont vraiment en première ligne. Et là, on voit déjà l'impact.
Vous ressentez la même chose?
Alors, Virginie, oui, effectivement, les sociétés de luxe, pour le moment, on est qu'au début des publications, donc on ne peut pas conclure, hein, c'est trop récent. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment. Encore là aussi, on est encore au début, mais enfin bon. Pour discuter pas mal avec les compagnies, c'est relax.
Ils sont plutôt sereins. Même dans leurs prévisions.
Non.
Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de self-warning.
Évidemment, on a eu la période. Alors, eux, c'est plutôt sur la supply chain.
Bien sûr.
C'est le risque d'approvisionnement. Et après, les effets prix, c'est selon les industries. Hein, vraiment, c'est très. Il y a les effets volume, prix, etc. Mais sur la supply chain, ils ont énormément appris.
Supply chain, c'est les chaînes d'approvisionnement.
Voilà. Après la pandémie, donc ils se sont quand même beaucoup plus diversifiés. Ils sont dans une situation.
Ils ont eu tellement de crises qu'ils se sont adaptés.
Ils s'adaptent. Ils ont cette facilité d'adaptation qui est plus importante.
Allez, on va se faire peur. Faut-il avoir peur de la guerre? Comme le chante Leonard Cohen, Everybody knows, tout le monde le sait, le monde est surendetté. Le FMI prévoit que la dette atteindra 100% du PIB mondial 2 ans plus tôt que prévu. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus les moyens de faire des plans de relance, cher à nos derniers gouvernements français? Et est-ce qu'on peut continuer à vivre avec une dette galopante ou est-ce que ça, c'est en train de flinguer de façon définitive les perspectives de croissance?
Alors, la nouveauté dans cet environnement tel qu'il est décrit effectivement par les perspectives qui vont jusqu'à au-delà de 2030 pour le FMI, décrites par le FMI, et quand on regarde alors la dette des pays développés, la dette française, on sait très bien que la trajectoire est haussière, 120%, etc. Et on va continuer tant qu'on n'a pas effectivement de réduction de ce qu'on appelle le déficit primaire, c'est-à-dire la dépense en fait publique avant l'ensemble de la dépense publique avant la charge d'intérêt. Et bien tant qu'on n'a pas en fait de cette réduction là, on a effectivement une mécanique de la dette qui continue encore à monter, plus ou moins vite, mais qui continue à monter. La nouveauté que je trouve, quand on regarde effectivement le panorama proposé par le FMI, c'est la montée significative des pays émergents en termes de dette. Ils ne sont pas encore à 100%. Nous, les pays développés, ont largement dépassé, sauf la Suisse, ont largement dépassé les 100%.
Oui, sauf l'Allemagne aussi.
Un petit peu. Oui, ça monte à 70%, presque 70%.
Et le Luxembourg.
Effectivement.
Vous ne verrez jamais un Suisse parler du Luxembourg, c'est son concurrent.
C'est pour ça que j'aime bien le
taquiner. Vous avez raison.
Et alors, la nouveauté, c'est qu'effectivement, on a un accroissement qui est significatif. On est dans les 80-90% sur la dette des pays émergents. Alors après,
vous mettez la Chine dedans ?
Oui, on inclut la Chine. Si vous enlevez la Chine, c'est assez stable. D'accord. C'est beaucoup plus stable. Chine, donc effectivement, c'est la Chine. Alors après, c'est le mistigris de la dette, c'est-à-dire où est-ce que se cache un peu comme le bento, où est-ce que se cache la dette? Est-ce qu'elle est dans les ménages? Est-ce qu'elle est dans les entreprises? Ou est-ce qu'elle est dans le secteur public? Et malheureusement, et c'est là la grande différence de toutes les crises passées, c'est que les bilans privés sont plutôt sains. Il n'y a pas trop de problèmes du côté des ménages, pas trop de problèmes du côté des entreprises. S'il y a des problèmes, c'est le financement, c'est pas la dette, ou du moins c'est pas le bilan. Le problème, c'est effectivement, c'est la marge de manœuvre dans les pays, la dette publique et les pays développés. Le gros problème que l'on voit quand on regarde une projection là aussi, qui n'est pas celle du FMI, qui est celle de la Commission européenne, sur les 5 prochaines années, au-delà de 2030, eh bien, le gros problème qui va falloir maîtriser les chiffres, c'est la charge de la dette.
Bien sûr.
On est maintenant entre 2 et 2,5. Donc, de charge de la dette, d'intérêt payé par rapport au PIB français, cette métrique-là peut monter jusqu'à 5% du PIB. 5% du PIB, c'est énorme. Ça veut dire que plus les taux montent, eh bien, plus la charge de la dette augmente la dette.
Bien sûr.
Et là, on rentre dans une mécanique. C'est pour ça que...
On y est déjà un peu. Hein.
Alors,
on est déjà un peu dans cette... Dans
on risque, cercle on risque en, d'entrer là-dedans. De la France. Il y a des pays qui sont très vulnérables. Hein. La Belgique va certainement être révisée en termes de notation des agences. L'Italie n'est pas bien positionnée. Elle a bénéficié des aides, mais les années à venir vont être difficiles. Et effectivement, si on a des taux d'intérêt qui montent plus vite que la croissance réelle, là, on est dans une mécanique.
Comme on n'a pas de croissance réelle, on aura toujours des taux d'intérêt qui sont supérieurs. Est-ce que, justement, c'est pas ça qui limite? On a vu le gouvernement peiner à distribuer de l'argent, lui qui est si prompt à distribuer des chèques avec le quoi qu'il en coûte. Est-ce que c'est la fin du quoi qu'il en coûte grâce au poids de la dette?
Je pense que c'est effectivement le début, heureusement, d'une certaine prise de conscience. Le fait que, quand on dit quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite, mais effectivement, on a effectivement ce sujet-là.
Enfin, c'est même pas une prise de conscience, c'est juste qu'on on est contraint, quoi. Ça y est, enfin.
Je pense que c'est d'abord et avant tout la prise de conscience, okay. Parce que lever de la dette aujourd'hui ne pose pas encore de problème. Mais effectivement, on a quand même des signaux d'alerte sur
la hausse des taux qu'on a eu,
sur une hausse de taux qui reste quand même très gérable, mais qui montre qu'en fait on peut pas faire n'importe quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une dette plus élevée, en langage financier, on appelle ça on charge le bilan. Et il faut bien comprendre ce que ça veut dire en termes de la vie de tous les jours. Quand vous avez un véhicule qui est trop chargé, il est moins manœuvrant. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'économie mondiale et dans les économies qui sont trop endettées. C'est-à-dire, c'est pas dangereux en soi, ça veut dire que vous êtes moins manœuvrant, vous êtes moins agile, et quand vous avez un problème, en fait, derrière, vous pouvez aller verser dans le fossé assez vite. Donc il faut piloter avec beaucoup plus de prudence.
Et on le voit.
Mais exactement, c'est ce qu'on commence à voir. Et après, il faut aller dans le détail de la dette. C'est pas parce que la dette dans son ensemble est importante que ça pose problème. Okay. En France, ce qui pose problème, c'est la dette sociale. C'est ça le problème. Donc il faut aller effectivement un peu dans le détail pour savoir où est-ce qu'on a mis la dette, est-ce que le véhicule est suffisamment bien équilibré.
Wilfried, vous êtes comme moi, on est des vieux routiers, la baisse des dépenses publiques, quand on voit que le gouvernement annonce un déficit à 5% contre 5,1% et qu'on sera encore avec un record par rapport à la zone euro, c'est...
On sait qu'on ne peut le faire que dans le cadre d'élections qui donnent une légitimité très forte, parce que politiquement, c'est extrêmement difficile de taper ces dépenses-là. Pourquoi ? Parce que, essentiellement, ce sont des dépenses sociales. Donc, tous les Français en bénéficient.
On a eu des gouvernements qui ont eu des majorités, ils n'ont rien fait. À commencer par celui de Macron et les précédents, d'ailleurs, avant.
Mais les chiffres n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui.
Ouais,
et donc, entre le ralentissement de la croissance, le choc de la guerre et les chiffres de la dette, il y a effectivement une prise de conscience qui, si on a la légitimité politique, peut, je l'espère, au moins sur la partie dépenses sociales, conduire à des plans d'action.
Ben, j'espère.
Si on essaie un peu de faire un exercice de prévision de ce qui va se passer, parce que c'est vrai que ça paraît insoutenable. Hein,
insoutenable.
Voilà. Donc, c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu des cas assez fulgurants de redressement d'un pays comme ça, de l'endettement. Donc, le plus récent, c'est le Portugal. Mais avant cela, il y a eu aussi, par exemple, sous Schröder, l'Allemagne, ou bien aussi sous le gouvernement chrétien au Canada, dans les années 90. Et là, ça a été des retournements spectaculaires. Donc,
sous contrainte, Pierre, vous oubliez de le dire, ils étaient au bord du gouffre. Problème, c'est qu'on a l'euro et l'Allemagne.
Mais là, c'est là où je reviens, Wilfried. Ouais. C'est qu'avant de faire ça, comme il y a des sacrifices à faire, hein, il faut un consensus national. On ne fait pas une restructuration de la dette contre l'opinion, contre le public. Il faut que les gens le veuillent, le souhaitent et pense que l'austérité est moins grave que le risque de dette. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ce consensus national, dans les trois cas que je viens de citer, c'était le cas, là, première étape, c'est de faire des réformes structurelles. Ouais. France, la réforme structurelle, comme tu viens de le dire, c'est la dette sociale. Et donc, c'est le sacrifice, il est là. Mais le problème, c'est que ça va toucher principalement les ménages fragiles.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que la gauche dans notre pays est complètement contre, préfère augmenter les impôts. Donc,
mais
le débat,
droite,
il est là. Est-ce qu'on
augmente
les impôts? Est-ce qu'on diminue la dette sociale? Et dernier point, avant de laisser la parole, c'est tout cet environnement, c'est fantastique pour l'épargnant. Enfin, pas pour l'épargne, parce que c'est comme l'État ne peut plus investir face aux défis colossaux que nous attend, c'est l'épargne publique, l'épargne du grand public qui a le pouvoir de changer la donne.
Si on a les moyens d'épargner.
Donc c'est là que l'épargne publique rentre en action pour moi.
Patrice disait que du côté des entreprises, la situation de la dette était plutôt assez bonne et que c'est plutôt l'inquiétude, c'est les États. Vous, dans les bilans des entreprises aujourd'hui, quand vous regardez les boîtes, par exemple, les boîtes américaines, notamment de la tech, même si elles empruntent beaucoup pour financer l'infrastructure, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Elles sont cash rich. Il n'y a pas de souci du tout.
Il n'y a pas de souci.
D'ailleurs, on voit moins chez les gérants la notion de la dette.
Il faut comprendre que la dette n'est pas un gros mot et que dans les entreprises, la dette est là pour encourager la croissance. Le problème, c'est que nous, au niveau public, on est passé dans un monde où ça n'encourage plus la croissance. C'est juste, on l'a dit, ça contraint. Et quelque part, ça contraint la croissance.
C'est ça.
Et c'est ça, le problème. Donc, c'est pas du tout la
Mais
même
vous,
équation.
Mais vous, gérant, j'ai l'impression que depuis quelques mois ou quelques années, d'ailleurs, le sujet de la dette n'est plus un vrai sujet. On a l'impression
En France, il se traduit par plus d'impôts. Et donc, notamment, l'impôt...
Non, mais je parlais même pour les entreprises. Il n'y a pas de sujet de surendettement des entreprises.
Si l'État est endetté, il impose les entreprises. C'est ce qui se passe en France.
Allez, je voudrais revenir quand même aux chiffres de la semaine, parce que Patrice l'a dit, l'élément essentiel, c'est quand même le cours du pétrole. Justement, est-ce que... J'ai des questions. Bon, il a baissé, évidemment, mais on est en très forte hausse depuis la guerre en Iran. On est autour de 90 dollars sur le pétrole brut. Wilfried, est-ce que le cours du pétrole, c'est toujours aussi important pour l'économie internationale? On n'est plus dans les années 70 quand même.
Alors, ça l'est moins, mais ça reste toujours extrêmement important. C'est effectivement beaucoup moins critique que ça l'était, que ça y était il y a 30 ou 40 ans. Néanmoins, ça reste, en particulier par ses dérivés du pétrole, un élément extrêmement important. On le voit aujourd'hui, par exemple, en Chine, on a une augmentation des dérivés, du prix des dérivés du pétrole, comme le méthylène, comme un certain nombre de plastiques, qui posent énormément de sujets, y compris à la chaîne de valeur chinoise. On dit toujours, les Chinois sont les grands gagnants. Pas du tout, en fait. On a énormément de problèmes là-dessus. Et donc, effectivement, on a sur ces dérivés du pétrole, pas tellement sur le pétrole lui-même, mais sur les dérivés du pétrole, un certain nombre de sujets. Et on le voit, on peut avoir des pénuries, on commence à en avoir
mais
sur le kérosène.
Mais on nous dit le renouvelable, le nucléaire en France, tous ces sujets-là.
Mais tout n'est pas substituable. Okay. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est à la fois un sujet de prix, on en parle beaucoup, mais ça peut être à la fin un sujet de quantité. Comment est-ce que l'économie peut s'ajuster à des chocs de non-disponibilité. Et ça, en fait, on ne l'a pas connu. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les marchés restent relativement calmes?
On l'a connu quand même avec la guerre en Ukraine. On s'est adapté à un choc d'offres.
En tout cas, il y a eu un choc d'offres sur la partie gaz, ça n'était pas au moment où les pays en avaient le plus besoin. On avait du temps pour se retourner. Là, si ça arrive, par exemple, d'ici 2 mois, vous n'avez plus de kérosène, dans beaucoup d'aéroports européens, il va falloir s'adapter. Et je ne sais pas exactement comment, à part effectivement...
C'est bon pour le climat, ça. Il y aura moins de vols.
Effectivement,
on émettra moins de
votre
CO2.
Voiture électrique en batterie, mon cher Marc.
Patrice, j'étais intéressé par le rapport j'en ai parlé en introduction, de l'Agence internationale d'énergie, qui dit le problème, c'est pas totalement l'offre, ça va être aussi la demande. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que disait Wilfried au début, avant la crise en Iran, il y avait déjà un ralentissement économique et des perspectives de demande de pétrole qui n'étaient pas très roses, et là, c'est encore pire.
Oui, voilà, ben c'est l'effet hausse de prix qui réduit la demande et qui va inciter, on le voit bien, là c'est au niveau de la microéconomie, inciter les consommateurs à aller encore peut-être un peu plus vite vers d'autres moyens de déplacement, l'électrique, le collectif, le train par rapport à la voiture particulière, et puis d'inciter les États, et c'est ce que disait Wilfried, et ça c'est vraiment stratégique, ça l'était juste avant la crise, ça l'est encore plus.
Si vous citez
encore
Wilfried
plus.
À chaque fois, il a déjà un melon.
Mais
comme
parce
ça,
qu'il a raison.
C'est déjà une star, on va plus pouvoir le faire entrer dans
J'ai un tel exemple devant les yeux.
C'est ça, ouais.
Je reste très loin.
Voilà, ça a tourné. Donc
oui, ça y est, c'est bon, ça revient.
Donc, c'est la sécurité des approvisionnements. Quel qu'il soit, que ce soit en gaz, que ce soit en produits rentrant pour les fertiliseurs, etc., etc., puisque c'est tout ce qu'il y a derrière, effectivement, donc le pétrole. Et là, ça remet... En lumière et vraiment sous le projecteur, et bien en fait le mix énergétique de chaque pays, c'est-à-dire tous les choix qui ont été faits, le nucléaire en France, l'abandon du nucléaire, la reprise du nucléaire, le charbon en Allemagne, le charbon en Chine, et bien tout ça s'est mis sur le front en disant qu'est-ce qu'on en fait, et qu'est-ce qu'on en fait non seulement pour passer cette crise énergétique, mais ce qu'on en fait pour la génération suivante.
Et quand un client vient vous voir en vous disant qu'est-ce que vous prévoyez sur le pétrole, vous lui dites quoi?
100.
D'accord, moi je prévois 50. Et William?
Wilfried, mais c'est pas grave.
Wilfried, Il fallait que je fasse une erreur.
J'ai un club.
Wilfried.
Je pense que le prix d'aujourd'hui, c'est entre 80 et 90, c'est mon scénario central.
Non, mais aujourd'hui, oui, mais je veux dire, vous prévoyez quoi d'ici la fin de l'année? Allez,
entre 80 et 90.
Ah oui, moi je prévois entre 60 et 70. Alors on verra, on se retrouvera.
Marc, je fais
une
émission
avec vous. Une seconde.
Une seconde pour dire que c'est quand même une crise d'investissement. C'est qu'on n'a pas prévu, on ne prévoit pas, on n'apprend pas du passé et qu'on n'a pas investi, même sur les gaz de schiste, il n'y a pas cette
flexibilité. Les entreprises ont appris du passé.
Les entreprises, mais les. Bon, alors, je ne sais pas là, si on parle de l'OPEP+, etc., mais on n'a pas investi, donc on ne peut pas réagir. Et c'est là où il y a les bottlenecks. Et il faudrait qu'on apprenne.
À réagir, comme les entreprises. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, pour parler des placements de la semaine, pour savoir qui est le top 3 des gérants. Je sens que Pierre est très nerveux et les actions à acheter ou vendre.
BFM Business présente. C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve, j'ai essayé de donner les bons prénoms avec nos invités, avec Patrice Gautry, avec Virginie Robert, avec Wilfried Galland, avec Pierre Chang. Oui,
c'est bon.
C'est bon.
Oui,
et on va parler des marchés.
Il est reparti.
Et les marchés, c'est la fête. Ben ouais, c'est ça, le CAC, bon, CAC 0 à peu près la semaine, le S&P 3%, le Nasdaq quand même 5% de hausse, hein, ça va, tout va bien, et depuis le début de l'année, c'est que du vert, les amis, alors, je sais pas, si on était parti là et on revient, on se dit, mais il s'est rien passé là, Pierre.
Ben ouais, non,
c'est quoi l'événement qui vous a marqué cette semaine sur les marchés, au-delà de, on fera les tops et flops?
Non, mais moi, cette semaine, il y a, en tout cas, en France, il y a une catégorie de valeurs qui marche très bien en ce moment. Toutes les valeurs un peu exposées à tout ce qui est la photonique, les valeurs françaises exposées au déploiement des data centers, okay. Voilà, toute cette sphère là,
par exemple, avec des noms
de CRSI, bien évidemment, ouais, qui est dans ma sélection. Il y a aussi Semco, par exemple, il y a aussi Calray, Ribert, Soitec,
qui ne sont pas dans votre sélection.
Non, pas tous, non, il y a que des CRSI, mais c'est déjà pas mal d'en avoir un. Et des parcours remarquables, des plus 10% par jour,
justifié ou pas?
Pour deux CRSI, oui. Ouais. Pour les autres, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais c'est une espèce d'émulation comme ça collective, en particulier drivée par les investisseurs particuliers qui sont vraiment très dynamiques sur cette thèse.
Ah bon, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais. C'est-à-dire que vous, gérant, vous dites c'est les particuliers qui font le marché.
Oui, parce que ça monte sur vraiment de la spéculation sur l'avenir. Même s'il y a de l'enjeu, même si c'est possible, ça reste très hypothétique. En tout cas, c'est trop tôt pour trancher pour certains dossiers. Mais les cours explosent littéralement.
Donc, et Pierre, quand on voit des sanctions comme celle de vendredi d'un Alstom qui se prend moins 30%, ouais, c'est justifié ça ou c'est...
Sur Alstom, le nerf de la guerre, c'est le free cash flow. Hein. Donc, c'est la génération de trésorerie.
D'accord.
Donc, la génération de trésorerie, donc c'est la capacité de l'entreprise à générer de l'argent. Quoi. Voilà.
D'accord.
Sur Alstom, c'est un sujet épineux et vraiment très, très, observé. Parce que tout de suite, la société peut vite se retrouver en situation de se faire dégrader par les agents de notation.
Donc, c'est pas aberrant. Donc, on n'est pas dans une sorte de marché.
Non, mais je veux dire,
Alstom
dans le passé a eu des problèmes de financement, et donc ça veut dire que c'est un sujet récurrent. En plus, ils viennent juste de changer de directeur général.
Ça rappelle des mauvais souvenirs.
Donc je dis ça dans un pire scénario, ça peut être entendable, ce moins 30%, mais voilà.
Virginie,
rebondi quand même.
Qu'est-ce qui vous a marqué un peu cette semaine sur le marché?
C'est pareil, il y a un secteur qui a été très agité, qui est très agité à la hausse depuis quelques jours, c'est tout ce qui est aérospatial aux États-Unis, puisque bon, c'est quand même Artemis 2, c'est passionnant, fantastique, et il faut bien voir que c'est en fait l'ouverture d'une nouvelle industrie, parce que d'ici 2030, il faut savoir qu'il y a 400, dans le monde entier, il y a 400 missions qui sont programmées, de tout pays. Hein. Voilà. Et donc, Artemis 2, c'était essentiel que ça soit effectivement un succès, puisque Artemis 3, ça sera avec... il faut arriver sur la Lune, il faut s'établir sur la Lune, il ne faut pas juste planter le drapeau et faire trois pas, c'est autre chose.
Mais ça sera un grand pas quand même pour l'humanité.
Et ça sera un grand pas pour l'humanité. Et ensuite, parce que c'est une étape pour Mars. Voilà. Et ils contribuent dans cet écosystème. Et bien sûr, les gros, on a parlé de Boeing, on a parlé, bon, la NASA, bon, vous savez, il y avait effectivement Boeing en particulier et SpaceX. Mais il y a plein de d'autres sociétés qui sont déjà dans des tests comme Firefly et là, on a vu les planètes Lab, les roquettes Lab, pardon, les planètes, les AST, tout ça, c'est voilà. Alors, il va y avoir l'IPO de SpaceX aussi qui va animer le segment. Mais je trouve ça passionnant parce que là, il y a quand même une vraie industrie derrière qu'on a pu rencontrer un peu là dernièrement, et donc c'est
oui,
bien
c'est
pour nous
sérieux,
investisseurs.
C'est pas,
ah non, c'est pas fake.
Pipo,
non, c'est pas du pipeau.
D'accord. C'est et vous nous dites quoi là sur les marchés? Vous nous dites bon, parce que avouez que pour des gens qui sont pas dans la finance, de voir une guerre, même s'il y a une trêve maintenant, et de voir les marchés au plus haut avec des records historiques, ils se disent un peu
non, mais c'est...
ils disent qu'on se dit souvent les marchés sont déconnectés de la réalité, les gens comprennent rien.
Alors moi déjà, premièrement, j'ai envie de dire là, ce mois de mars a été fou parce que il y a eu beaucoup de bruit, les marchés s'effondrent, etc. Et puis effectivement un mois plus tard on est revenu au niveau. Donc j'ai la volatilité sur les marchés. Souvent, c'est une occasion de faire des bons achats.
D'accord.
Donc, souvent, la volatilité sur les marchés est perçue par le grand public comme quelque chose de négatif. Moi, pour moi, c'est vraiment positif parce que quand ça baisse, on peut acheter des choses beaucoup moins chères, souvent, de manière...
C'est les soldes, quoi.
Voilà, exactement. Donc là, en tout cas, nous, en mars, c'est ce qu'on a fait. Et on s'en est donné à cœur joie, quelque part. Ensuite, sur la suite de l'année, là, je rejoins ce que disait Wilfried.
Arrêtez, Wilfried.
On est dans un ralentissement économique.
En fait, le sortir... Est-ce que vous pouvez évacuer William
Oui.
William.
On est dans un ralentissement économique qui se renforce, voilà. Par contre, il y a des thèmes spécifiques qui sont extrêmement dynamiques. Donc, pour moi, toute cette guerre en Iran, c'est vraiment le tapis rouge pour l'électrification. Donc là, les data centers aussi, les renouvelables également. Donc là, il y a des poches de croissance énormes qui ont été relancées par.
Mais sur les indices, vous nous dites quoi?
Sur l'indice, ça va être difficile parce que dans les phases de ralentissement économique, avec un peu plus d'inflation,
sauf si
généralement les marchés.
Si les taux rebaissent, on a le scénario de désinflation dont nous parle.
Je pense qu'il y a un goulot d'étranglement déjà à desserrer d'abord. Et aujourd'hui, il est totalement bloqué. Donc pour l'instant, ça veut dire inflation. Donc pour l'instant.
Justement, Wilfried, vous voyez les taux d'intérêt rebaisser?
Ah, moi, je vois les taux d'intérêt plutôt rebaisser, effectivement.
Vous pensez que la BCE aura le courage de baisser les taux quand même en 2026?
En tout cas, je pense que les marchés feront le boulot, donc ça veut dire que les taux longs baisseront. Sur les taux courts, je l'espère aussi.
On est presque totalement d'accord, à part sur le pétrole.
Mais là, effectivement, sur la BCE, j'ai arrêté d'espérer.
Ah bah oui, la BCE, on a tous arrêté d'espérer, mais elle va partir un jour. Virginie, les marchés en général?
Alors oui, mais attention, parce que les indices, on a le sentiment, effectivement, qu'on est revenu au même niveau.
On est revenu au même niveau.
Si vous le regardez en profondeur, c'est pas le même. Hein.
Ah bon, dites-le nous.
Le S&P 500, c'est très clair. Hein. Qu'est-ce qui a monté? C'est l'énergie. Voilà. Et si vous retirez l'énergie, on n'est pas du tout dans la même hausse.
D'accord.
Et puis, à l'inverse, tout ce qui avait déjà été pénalisé dans l'histoire de l'IA et la disruption sur
les éditeurs de logiciels,
ça a été amplifié parce qu'il y a des nouvelles qui sont arrivées, notamment avec Anthropic, Mythos, etc. Donc, il y a eu une espèce. Et alors, on a vu cette configuration de marché qui a évolué justement sectorielle où tout a été précipité selon le secteur. Et là, on est content parce que, comme le dit Pierre, ce sont des opportunités, surtout à la veille de la publication des résultats, parce que on le sait, les résultats, c'est juge de paix et ça remet les pendules à l'heure.
On a vu des beaux résultats du côté financier, hein, dans le secteur financier.
Je ne suis pas particulièrement les banques, comme vous savez,
tout n'a pas été apprécié
par le marché, cela dit.
Ouais.
Donc, et on est qu'au début des résultats, donc il va falloir.
On vous fera revenir pour parler des résultats.
S'il vous plaît.
Tout de suite, justement, pendant cette période de guerre, puis de trêve, puis de, on ne sait pas, le placement de la semaine, c'est quoi pour nos amis gérants? Et je me retourne vers Virginie, qui a quelque chose à nous dire.
Oui, parce que c'est toujours le placement de la semaine. Mais moi, le problème, c'est que je suis dans une optique long terme. Parce que je suis sur les actions, et les actions, c'est des investissements long terme.
Ah non, mais quand on dit placement de la semaine, c'est le placement à faire aujourd'hui pour du long terme. C'est pas pour gagner.
Ah
non, on n'est pas une émission de trading.
Parfait. Alors, Nous, notre stratégie, c'est vraiment, parce qu'on parle de guerre, la guerre, elle est aussi, nous on l'appelle le choc China 2.0. Hein. C'est vraiment le mercantilisme, et c'est une très longue histoire, puisqu'elle a commencé il y a très longtemps. Hein. On a vu comment la Chine produit, est en surcapacité, il faut bien le comprendre, dans bon nombre d'industries. Certaines industries ont été évidemment attaquées, la plus récente en Europe, l'automobile, et je peux vous dire que c'est pas fini. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on investit, avoir un œil, un raisonnement et de se dire, est-ce que il peut y avoir là un problème de pression sur les prix, de déflation, comme on le disait, et baisse des prix, et pression sur les marges, parce que les volumes ne font pas la croissance. Et c'est là où je dis, parce que aux États-Unis, il y a toute cette dépense, ces data centers, etc. Mais attention, parce que le marché, de temps en temps, il a tendance à confondre volume, enfin chiffre d'affaires, et profitabilité. Et donc, tout le monde n'aura pas le même résultat. Et il faut savoir que, alors, sur ce sujet donc, chinois, il faut privilégier là où il y a du pricing power, là où il y a de l'écosystème, là où il y a de la souveraineté. Donc, on peut penser, effectivement, que la défense est encore relativement protégé, je ne sais pas, parce que peut-être qu'un jour on aura des drones, on achètera des drones aux Chinois. Bon, c'est pas le cas. Mais il faut vraiment, nous, c'est vraiment notre.
Mais disons, votre boulot, il est pas simple, parce que si on doit éviter ou essayer de deviner les boîtes qui vont pas se faire flinguer par l'IA. Et les boîtes qui vont pas se faire flinguer par la Chine.
Tout en évitant de se faire flinguer par les drones.
C'est pour ça
qu'on a du travail.
Ah ouais, vous avez du boulot. Franchement, ça doit pas être simple. Moi, je me dis que ça doit pas être simple, votre job. Hein, parce que aujourd'hui, entre l'IA, et vous avez raison, la Chine, et plein d'autres perspectives, je parle même pas de la géopolitique, le placement de la semaine pour vous,
donc,
c'est quoi?
Pour moi, c'est Pierre. Souveraineté. Hein, donc, c'est un peu galvaudé maintenant comme terme, mais c'est l'histoire de la décennie et de celle qui va venir après. L'an dernier, on a eu la souveraineté militaire, donc tout le monde s'est mis à équiper. Bon, ça va continuer. Ça. Donc, mais boursièrement, c'est déjà un thème très joué, quand même, la défense. Mais ensuite, il y a la souveraineté énergétique. Donc ça, c'est cette année. Là, l'énergie, c'est le sujet, la prise de conscience. Ensuite, il y a la souveraineté numérique. Et là, sur les data centers en Europe, on a vraiment un boulevard. Hein. Donc, il y a les quelques acteurs qui sont impliqués là-dedans vont, à mon avis, faire des belles croissances. Et là, bien sûr, la souveraineté sanitaire. Hein. Et donc là, sur ces quatre piliers, il faut trouver les champions. Donc l'Europe, pour moi, c'est vraiment la zone la plus concernée par ce sujet.
Souveraineté sanitaire, expliquez à Wilfried, c'est pas la souveraineté des sanitaires, hein. C'est pas d'avoir des fabricants de toilettes.
Je me demandais,
pas des fabricants de toilettes français. C'est important quand même, parce que je le sentais.
N'hésitez pas à regarder dans le podcast, parce qu'effectivement, après, derrière, on réapprend des choses là-dessus.
Donc, vous donnez un exemple dans chaque domaine.
Sur la souveraineté et défense, bon, nous, on a beaucoup parlé d'Excel Technologies l'an dernier, hein, donc les sous-marins. Donc ça, c'est bon, maintenant, on en a très peu maintenant dans les portefeuilles. La souveraineté numérique, donc là, de CRSI, je pense que c'est un acteur intéressant.
Et vous, vous en avez en portefeuille, je crois, c'est ça.
Oui, tout à fait. La souveraineté énergétique, bon, elle est renouvelable. Bon, donc, je crois que j'ai EDPR dans mon portefeuille. Et puis la souveraineté sanitaire, donc là, il y a beaucoup de biotech que je trouve très intéressante, que je privilégierais, mais je ne vais pas vous donner de nom aujourd'hui.
Et
ensuite, sur la réindustrialisation, là, il y a énormément d'acteurs, parce que la réindustrialisation, c'est vraiment un thème très, très diffus, mais on peut penser à Vinci, par exemple, qui sera un acteur de la réindustrialisation, SPI aussi, par exemple.
Et vous êtes d'accord avec ça, hein, souveraineté?
Ça revient exactement au sujet,
que vous avez dit. Donc, vous voulez dire qu'il a dit tout ça pour répéter ce que vous aviez dit tout à l'heure très rapidement?
Pas du tout, il l'a dit d'une meilleure façon, plus clair.
Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. J'arrive pas à créer de tension dans ce plateau-là. Il y a trop de bienveillance, je supporte pas. Le top ou le flop de cette semaine, Patrice? Top ou flop?
Un double top dont on vient d'évoquer, c'est la croissance chinoise au premier trimestre, 5% grâce aux exportations, 14% sur un an. Alors, même si le mois de mars...
Exactement l'objectif, hein.
Même si le mois de mars est par là, comme quoi c'est beau une économie planifiée. Donc les exportations qui ont chuté ou qui ont fortement ralenti donc au mois de mars, mais ce qui est intéressant derrière, c'est que ce sont les exportations, celles qui restent comme des moteurs de croissance chinoise, ce sont les exportations d'automobiles, les exportations de semi-conducteurs, les exportations de pièces détachées
la menace dont parle qui n'est plus une menace fantôme, dont parle Virginie.
c'est une menace, guerre, mais c'est aussi un guerre. Soutien. C'est puisque derrière, oui. ça traduit une demande mondiale oui. et ça traduit effectivement une balance de pouvoir par rapport aux États-Unis.
Vous rigoliez sur les 5% juste. Vous pensez que les chiffres sont faux, chinois?
N'ayez pas peur. Je pense qu'ils sont bien travaillés pour que derrière le pouvoir puisse dire j'ai réussi à faire exactement ce que j'ai dit.
Donc c'est des chiffres dans la ligne du parti.
C'est des chiffres dans la ligne du parti. Il ne faut jamais oublier le premier des 14 principes de Xi Jinping inscrits dans la Constitution. Hein, assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. C'est le premier des principes. Hein. Il faut bien assurer le leadership du Parti communiste chinois.
Y compris les centres de statistiques économiques.
Toute forme d'organisation sociale, il n'y en a pas une qui échappe.
Virginie, top ou flop pour vous?
Mais non, mais moi, mon top, c'était ça, c'était Artemis.
Ah d'accord.
Ah mais moi, c'est
mais
un top.
Mais vous pouvez en reparler.
C'est la Lune. C'est un super top, non?
Non, parce que vous dites c'est un top, et en plus c'est un top économique, quoi.
C'est
pas juste un exploit technologique.
Ah mais non, c'était très important dans l'ouverture de ce chapitre. Donc, et ça me permet de rajouter, j'avais oublié, parce que il y avait Boeing, mais Lockheed, n'oublions pas. Il faut dire bravo à tous ceux qui ont participé.
Top ou flop, William?
Alors moi, Jean-Pierre. J'ai beaucoup hésité, mais je vais choisir ce que je pense être un flop assez considérable. Donc la société qui s'appelle maintenant New Bird. Donc vous avez peut-être entendu parler. Donc c'était une société qui s'appelait Allbird et qui faisait des baskets, des sneakers avec une ligne très ISR et qui a été introduite en bourse, qui a valu jusqu'à 20 milliards de dollars. Et exactement. Mmh. Et qui ensuite s'est cassé totalement la figure et qui ne valait plus lors de la dernière augmentation de capital que quelques dizaines de millions de dollars. Et cette semaine, ils ont dit mais finalement on va pivoter et maintenant on est des fournisseurs de d'intelligence artificielle, de cloud et de data center, et donc on va s'appeler New Birds AI. Et le jour de l'annonce, l'action a pris 600%. Bon, alors perdu un petit peu depuis. Et c'est le signal effectivement que on est dans cet univers un peu ce que disait Pierre sur la partie qu'appellent les boursiers les mêmes stocks, ces actions un peu totem autour duquel se rassemblent un certain nombre d'individus. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui déclenche l'étincelle. Et là, voilà, on a eu l'étincelle. Finalement, on faisait des baskets, mais non, finalement, on va faire de l'intelligence artificielle, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est aussi le marché dans lequel on évolue. C'est pour ça, que le rôle des gérants est quand même très très compliqué.
Et vous dites quoi, ça, c'est dangereux, quoi? Ou c'est pas grave, je veux dire, qu'ils s'amusent avec c'est l'auto qui s'amuse, tant pis pour eux.
C'est le signal qu'il faut faire très attention au mode qui emporte tout. Oui. Et donc, il faut rester extrêmement vigilant et travailler avec des gérants qui savent effectivement distinguer le bon grain de l'ivraie.
Alors, avant de vous demander votre top ou flop, Pierre, pour rebondir sur ce que dit Wilfried, quand même, aux États-Unis, on a l'habitude, vous avez raison, hein, ça fait des années, on avait vécu.
Ah, mais ça m'intéressait le fait qu'effectivement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'air de dire que sur la France, on commence à avoir ça.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est une société qui s'appelle Ribair en particulier. Ouais. Il y a un influenceur américain, une influenceuse américaine qui a mis une photo d'une machine chez Microsoft et il y a marqué Ribair dessus. Mmh. Donc elle a fait un zoom sur la photo, encadré, et le titre est parti en flèche.
Donc ça veut dire que nous aussi on commence à avoir des communautés d'actionnaires individuels qui chassent un peu en meute.
Je pense qu'il y a des Américains qui viennent. Le retail aussi, c'est quand même pas mal développé en France et en Europe ces dernières années.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle, non? Vous êtes d'accord?
Pour moi, comme je disais tout à l'heure, la volatilité sur les marchés.
Il faut plus d'actionnaires, les Français investissement en direct.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Maintenant, c'est vrai que le retail a une manière d'acheter, de vendre qui est parfois impulsive, voilà. Et donc moi, c'est ce que je dis souvent, c'est la volatilité, il faut en profiter, il faut pas le subir. Donc
top ou flop pour vous cette semaine?
Alors moi, c'est un top en fait, parce que cette semaine on a enfin le lancement de la plateforme Lyse pour Lighting Stock Exchange. Alors c'est une petite plateforme française basée sur la blockchain qui permet des petites entreprises, vraiment des PME, TPE, de s'introduire en bourse. Et donc là, on est à la première opération qui sera finalisée le 20 avril. Donc c'est la société ST Group dans le domaine de la défense. Alors c'est une toute petite société, elle fait 3 millions de chiffres d'affaires. Mais ce qui est bien pour moi, c'est que c'est un canal supplémentaire pour financer les PME. Vous savez que je suis attaché à ça.
Ouais, bah, moi, je le sais
tous
très
les
bien.
Canaux sont bons à prendre. Et en plus, c'est une plateforme d'échange un peu moderne, puisque c'est coté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, je suis curieux de voir comment elle va se développer et est-ce que ça va inspirer les plateformes qui sont déjà existantes et historiques.
Bon, on verra. Allez, on passe tout de suite au top 3. Vous avez peur, Pierre, ou pas?
Oui, j'ai
peur. Regardez, Pierre. C'est bien. Pierre Chang, 17,2% depuis le début de l'année. Franchement, bravo.
Chapeau.
Chapeau. Stéphanie Moget, 7,4%. Sébastien Corcha, 6,2%. Franchement, bravo, parce que vous êtes en tête depuis le début, quasiment depuis le début de l'année. Vous avez fait un très beau parcours. Oui, vous
alors, je profite de ce temps pour dire.
Vous étiez chez vous.
Alors voilà, donc ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est. Donc dans mon portefeuille, j'ai principalement des sociétés françaises,
on va en parler tout de suite.
Des valeurs moyennes françaises. Donc c'est aussi ce que j'essaie peut-être un peu de démontrer avec ce portefeuille, c'est qu'avec des valeurs françaises, on peut faire des belles performances, on peut surperformer les indices. Voilà. Donc il faut aussi avoir confiance dans les entrepreneurs français et dans ce qu'on sait faire en France, plutôt qu'en permanence se dire que on est bon.
Un Virginie.
Et c'est pour ça que je suis global. Je vais chercher partout.
Vous avez entendu ce qu'il a dit, il faut faire des entreprises françaises. Je vous demande pas combien vous avez d'entreprises françaises dans votre fonds global, parce que là, je vous mettrai en difficulté, Virginie.
Non, je suis au-dessus de 10%.
Ah oui ?
Bah oui.
Ah, d'accord. Ouais. Non, je pensais que vous alliez me dire rien du tout. Ah ben, ça me fait plaisir. Allez, parce qu'il a l'air un peu confiant, là, on va lui faire peur. on va démarrer peut-être... Allez, on démarre par Virginie, parce qu'elle est toute souriante. Elle a du Amazon.
Ah ben, ça, je garde.
On garde. Voilà, on a du CrowdStrike.
Oui, alors ça, c'est bien.
On garde attaquer.
Oui, on garde, bien sûr.
On a du Meta.
On garde aussi.
On a du... Non, mais on continue quand même. On a du Dolby.
Je garde.
On a du L3 Harris.
Ouais.
On a du Ralph Lauren, cher Patrice.
Oui.
On a du Starbucks chez Rapierre. On a du Apple.
Qui m'est cher.
On a du Homet.
Ouais, très bien.
On a du Uber qui est cher à Wilfried. On a du Gildan.
Ouais.
On a du Sony.
Ouais, c'est sous-côté Sony. Hein.
On a du Rolls-Royce qui m'est cher. On a du Walt Disney Company qui est aussi très cher à Wilfried.
Absolument.
Qui est tous les week-ends à Euro Disney. On a du Netflix qui s'est quand même pris une bonne tôle avec le départ de Reed Hastings.
Mais je l'ai appelé pour lui dire de ne pas faire ça maintenant.
Bah ouais.
Parce que les résultats sont plutôt bons.
Qu'est-ce qui lui a pris le patron là il en a marre.
C'est normal, c'est bien. Il a fait un sacré parcours.
Sacré parcours.
Évidemment, donc
sacré parcours.
Il n'apprécie pas sa paire neuve sur la nouvelle.
30 ans quasiment.
Formidable ce qu'il a fait. Je pense surtout
le pivot. Quoi.
Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui écrit beaucoup, donc je pense qu'il a envie de.
Il a dit qu'il voulait faire du caritatif.
Bah oui. Mais c'est bien. Et bon, je pense qu'il
a
les moyens.
Qu'est-ce qu'on achète,
a priori.
Virginie.
Alors, on achète Cisco, mais alors, c'est pas Cisco avec un C, c'est.
Non. Parce qu'elle est forte. C'est la copie chinoise de Cisco.
Non. Justement, dans le terme de résilience, souveraineté, Cisco, c'est une plateforme.
Faites attention aux contrefaçons. Allez-y.
Oui.
Chinoise.
Exact. C'est une plateforme de distribution de food, enfin, ce qu'on appelle du food services. C'est tout ce qui est alimentaire en dehors de chez vous.
Okay.
Voilà, pour résumer.
Okay.
Que ce soit restauration, hospitality, enfin, donc les hôpitaux, les écoles, etc. Et c'est le leader aux États-Unis, c'est même le leader mondial, en fait, parce que Cisco, donc c'est 30 milliards de market cap, hein, Cisco, ils arrivent à... En fait, c'est un marché qui est très fragmenté, donc ça fait des années qu'ils consolident ce marché et ils ont un vrai savoir-faire en consolidation. Donc, c'est pas complètement domestique aux États-Unis parce qu'ils ont quand même 15% à l'international, mais c'est quand même très domestique. Donc il y a une exécution qui est très très bonne et le titre a baissé récemment parce qu'ils viennent d'acquérir effectivement une société chère. Mais une grosse société qui comble en fait leur portefeuille de produits
et qui va
et donc
leur permettre de changer de dimension. Donc on profite de la baisse pour en acheter. C'est du voilà. Cisco avec un S et un
avec
Y.
Avec S.
Ne vous trompez pas. Allez, maintenant on va faire peur à Pierre Chang. Il a du ID Logistics.
Garde.
Il a du séché.
On la sort.
Ah ouais.
Ouais.
D'accord. Pourquoi? Parce que ça a bien performé.
Un superbe rebond en bourse. Et voilà, maintenant.
On a du EDPR.
Oui, ça on garde.
On a du Carrefour.
On garde.
Ah, ça a fait 17% de hausse Carrefour depuis le début de l'année.
Ah, on peut en parler un petit peu si vous voulez, Carrefour, parce que c'est un dossier.
Ah ouais, ça j'aurais jamais. Bah ouais, moi aussi quand vous l'avez. Mais quand vous l'avez dit, je me suis dit il doit être fatigué. Et vous avez du Unibail.
On garde.
Vous avez du 2 CRSI, vous en avez parlé, du Biomérieux et du Score.
Alors on sort Biomérieux.
Pourquoi?
Parce que je me c'est pas là la ça prend pas la direction que je souhaitais.
Donc, ok. Voilà. On va leur dire. Et qu'est-ce qu'on achète?
Alors on achète Aubais. Donc c'est une SS2I.
Ah, vous revenez sur les SS2I.
Voilà, donc ça c'est intéressant.
Ah, c'est intéressant.
Un peu Virginie tout à l'heure, en fait, on se rend compte que les
sociétés de services informatiques.
Exactement. Donc la souveraineté numérique, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc elle fait partie de ça, et surtout le titre a beaucoup baissé en bourse, et on sent quand même que le marché un peu en a marre un peu de taper toujours sur le même dossier. Et donc là, elle commence un peu à se réveiller, elle est pas chère.
Et parmi les ESN, c'est celle que vous choisissez?
Ouais, alors ils sont, historiquement, ils sont très bons, en fait. Et donc, dans ces conditions-là, je préfère prendre, faire confiance aux meilleurs du secteur.
Avec un bon patron. Allez, et Essilor?
Et Essilor, c'est un peu pareil. C'est un dossier qui a beaucoup baissé sur l'histoire des smart glass, en fait, les lunettes connectées. Et elle a beaucoup baissé parce qu'il y a des concurrents qui rentrent sur le secteur. Bon, Google revient. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont déjà essayé de faire des lunettes connectées, mais ils n'y sont pas arrivés. Et c'est les seuls qui ont commencé. Alors maintenant,
il y a les Chinois. Hein,
maintenant, qu'il y a l'acteur qui arrive, tout le monde arrive. Ouais. Mais sauf que Essilor, c'est les meilleurs. Donc, c'est les meilleurs parce qu'ils ont le réseau de distribution, ils savent faire des montures, ils ont
Virginie
les
verres. Virginie nous dit attention aux Chinois.
Il y a pas de ça chez Essilor. Moi, je suis d'accord sur Essilor.
Ah, vous êtes d'accord.
Aussi de Essilor dans mes plus de 10% en français.
D'accord. Ok, mais et vous nous dites faites attention aux Chinois, Virginie.
Il n'y a pas de valeur française dans votre élection, là. Fallait mettre, faut mettre du Essilor.
Il a raison. Bon point. De Pierre Chambon,
je plaisante.
La petite tension à la fin.
Ok, je penserai à une valeur française.
Allez, essayez de faire un effort. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Alors, bon, maintenant, on a battu le record en mars. Ben, il faut que ça continue, quoi. Donc, surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter en replay et en podcast sur toutes les plateformes.
C'est votre argent sur BFM Business.